Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Guiz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une semaine d'angoisse, de recherche. Et hier après-midi, un corps a été retrouvé près de Florence, dans le Gers, où Liana, 11 ans, a disparu. Ce corps est probablement celui de cette collégienne. Et ce matin, les défaillances autour du principal suspect interrogent. Imaginez une montagne de cartons traversant l'Île-de-France chaque jour. C'est la conséquence de notre appétit pour les achats en ligne. 17 colis par habitant en moyenne en 2025. Premier match de préparation à la Coupe du Monde pour les Bleus et première défaite de Buzyn hier soir face à la Côte d'Ivoire.
C'est une issue tragique qui se dessine dans l'affaire Liana.
Une semaine après la disparition de cette collégienne de 11 ans dans le Gers, l'enquête a peut-être basculé hier après la découverte d'un corps. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de Florence. C'est donc à une quinzaine de kilomètres de cette commune que ce corps a été retrouvé.
C'est ça, exactement, dans un silo aujourd'hui désaffecté dans lequel avait travaillé Jérôme Barella jusqu'en 2018 et qu'il connaissait donc parfaitement. Ce silo avait été fouillé, mais peut-être de façon imparfaite en milieu de semaine par les enquêteurs. Et ils y sont revenus hier après-midi sur une indication fournie par un témoin qui leur a dit où précisément le corps pourrait se trouver. C'est là qu'ils l'ont retrouvé, dans ce silo. Ils ont retrouvé le corps effectivement d'un enfant avec des vêtements qui ressemblaient exactement à ceux que portait Liana vendredi dernier. Des prélèvements ont été effectués quelques heures après par les hommes de la police scientifique, des prélèvements ADN pour savoir si c'est bien le corps de la petite fille, le corps de Liana. On devrait avoir des résultats de ces prélèvements dans les prochaines heures, certainement dans la journée. Une autopsie également est au programme pour les médecins légistes, pour bien sûr déterminer les causes de la mort et savoir surtout si la petite fille a subi des violences sexuelles.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Florence dans le Gers pour RMC. Les parents de Liana ont fait part hier de leur tristesse et de leur colère dans un communiqué. Le gouvernement, lui, reconnaît des dysfonctionnements, des alertes, des plaintes pour viol et agression sexuelle et pourtant aucune audition du principal suspect avant la disparition de Liana. Justement, une réunion est organisée ce matin à Matignon. Et Cyprien Pézeril du service politique d'RMC, le gouvernement veut comprendre comment ces avertissements ont pu rester sans effet.
Oui, Sébastien Lecornu a décidé hier soir de modifier son agenda. Il devait initialement présenter des mesures pour lutter contre le narcotrafic aujourd'hui. Annonce qui aurait été occultée par ce drame qui s'impose dans l'actualité, reconnaît un conseiller du gouvernement. Le Premier ministre a décidé à occuper l'espace. Il est sous pression. Ce drame aurait dû être évité, accuse le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella. On a laissé un pédocriminel en liberté malgré les alertes, dénonce aussi la chef des écologistes, Marine Tondelier. Oui, il y a eu des dysfonctionnements dans le suivi du principal suspect, reconnaît le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
On a tout quoi s'interroger sur notre responsabilité collective. Pourquoi on met du temps à transmettre entre le parquet de Toulouse et le parquet d'Auch la suite de la plainte? Pourquoi, lorsque la procureure de la République demande de faire des actes d'enquête, manifestement, ils ne sont pas faits? C'est tout à fait inacceptable. Je prendrai des sanctions, je les proposerai, si je devais y en avoir, évidemment, ce qui me concerne, avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Une enquête administrative est ouverte, elle sera publiée, mais bien après la réunion d'aujourd'hui, avec donc le risque qu'il soit difficile pour le Premier ministre de tirer dès maintenant des conclusions.
RMC 7h04, Martin Ney est condamné à la perpétuité. Ce tueur en série allemand a été reconnu coupable du meurtre de Jonathan Coulon, ce petit garçon de 10 ans tué alors qu'il était en classe de mer à Saint-Brévin-les-Bains. Martin Ney a donc été condamné à la perpétuité par la cour d'assises de Loire-Atlantique. Un immense soulagement pour les proches du jeune garçon, notamment son père, à la sortie de l'audience.
Enfin, justice a été rendue pour notre fils. Il va pouvoir reposer en paix. Ma famille va pouvoir faire son deuil. Nous allons pouvoir nous reconstruire. La justice a fait son travail. Nous avons eu confiance dans la cour. Nous tenons à remercier la cour d'assises, les jurés, les avocats de tous les partis pour le respect qu'il y a eu envers notre fils, notre famille. Ça s'est fait humblement, mais correctement, ce qu'on avait toujours demandé depuis tant d'années, qu'il n'y ait pas d'erreur. Le rapport humain était là. Et c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est que le rapport humain a emporté sur la sauvagerie.
Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour violences sexuelles, ne remontera pas sur scène avant octobre. Le théâtre Édouard VII à Paris où est joué une pièce dans laquelle le chanteur détient un rôle. annule les 5 dernières représentations. À cela s'ajoute une série de concerts annulés cet été. RMC 7h05, un clic et un colis, multiplier l'opération par 315 millions. Voilà le bilan des livraisons en Île-de-France l'an dernier. 17 colis par francilien, chiffre révélé par une étude de l'Institut Paris Région. Justement, Rachel Sadonine, vous l'avez constaté dans les rues parisiennes.
Stationné en double file, un livreur s'empresse de remonter dans sa camionnette sans prendre le temps de répondre au micro car sa journée est
bien chargée, bien chargée.
Il redémarre au pas de course pendant qu'Andrea, elle, se balade tranquillement, colis sous le bras.
Je viens de le chercher en fait, c'est une petite robe d'été.
Ça vous arrive souvent de vous faire livrer des petites choses ?
Très très souvent, une dizaine de colis par mois. Ouais.
Et les points relais ont du mal à absorber tous ces colis. Rachid, gérant d'un service de courrier, reçoit jusqu'à 100 paquets par jour.
On est obligé de refuser des colis et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points qui ouvrent, beaucoup de gens aussi qui font ça en deuxième travail.
Dans son local rempli de colis du sol au plafond, Rachid l'affirme, 90% des emballages de paquets sont recyclables et selon lui, les entreprises de livraison essaient de plus en plus de limiter leur impact écologique.
Ils sont en train d'obliger les chauffeurs d'être en électrique.
Et vous voyez beaucoup de livreurs arriver en véhicule électrique.
Énormément, oui.
Selon l'Institut Paris Région, 2 véhicules sur 10 circulant sur les routes d'Île-de-France sont remplis de colis. Un chiffre qui illustre l'accélération spectaculaire des livraisons en région parisienne.
Ces montagnes de colis et ces routes qui sont donc encombrées de colis, on en parlera à 7h40. Le représentant des transporteurs sera en direct avec nous. Et puis si vous êtes vous-même livreur, vous êtes routier, appelez-nous, dites-nous si ça a véritablement changé les choses et si ça envahit les routes.
RMC 7h07, les Bleus débutent leur préparation à la Coupe du Monde par une défaite. Défaite hier soir de 2-1 contre la Côte d'Ivoire, un premier match raté. Mais Arthur Perrault, cela n'inquiète pas plus que ça, les joueurs de Didier Deschamps.
Oui, au coup de sifflet final hier soir à Nantes, le groupe France prend le temps de saluer le public comme si de rien n'était. Pourtant, la France concède sa première défaite depuis un an. Face aux médias, quelques minutes après, le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, ne cache pas son agacement.
Oui, évidemment, ça fait chier de perdre ce match-là, mais on va continuer à travailler. On a un deuxième match de préparation, je suis sûr qu'on sera encore meilleur et comme je l'ai dit, on sera prêt.
Cette défaite des Bleus est la première pour Didier Deschamps lors d'un match de préparation avant une grande compétition, mais le sélectionneur préfère relativiser.
La défaite est là, ça fait jamais plaisir. Il faut qu'on soit réaliste aussi. Je ne voyais pas trop beau et je ne vais pas nous voir troller ou être dramatique. S'il y avait besoin d'une piqûre de rappel, on l'a eu.
Message reçu pour les joueurs français qui auront l'occasion de réagir dès lundi à Lille contre l'Irlande du Nord pour leur dernière répétition générale avant le grand départ pour la Coupe du Monde.
Et on aura droit aux demi-finales hommes à Roland-Garros. Le grand favori Zverev va affronter Mensik à 14h30. Et c'est à suivre sur RMC, la radio digitale 100% terre battue.
C'était le journal de Clément Gouit. Il est 7h08 sur RMC. Et c'est donc une profonde émotion qui s'est emparée du pays. Émotion, tristesse, colère aussi. Parce que le corps d'une enfant a donc été retrouvé hier dans le Gers. Et tout laisse à penser qu'il s'agit bien du corps de la petite Liana, 11 ans, qui avait disparu vendredi dernier. Bonjour Christian Flèche.
Bonjour Anna.
Vous êtes l'ancien directeur de la police. La police judiciaire de Paris. L'affaire a pris une tournure également politique parce que l'on voit toutes ces plaintes qui s'étaient accumulées et qui n'avaient donné aucune conséquence. Le gouvernement reconnaît un dysfonctionnement autour du principal suspect. Maintenant, il va falloir obtenir des réponses. Voilà votre parti pris dans un instant. Et puis je vous attends, vous aussi, si vous voulez réagir, témoigner, n'hésitez pas. Le 32-16 vous est ouvert. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Ce corps retrouvé dans le Gers sur un site agricole que connaissait le principal suspect dans la disparition de la petite Liana, 11 ans. Bonjour Christian Flèche.
Bonjour Anna.
Vous êtes l'ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Tout laisse à penser qu'il s'agit bien du corps de la collégienne. Tout d'abord, comment les enquêteurs en sont venus à ce silo-là et comment ils l'ont retrouvé ?
Alors, je n'ai pas de détails, bien sûr, sur l'enquête. Je pense qu'il y a ce qui était visible, ce que vous avez abondamment filmé. Et puis, il y a la véritable enquête, ce que la section de recherche entreprenait, qui permettait, sur la base de témoignages, sur la base d'éléments de police technique et scientifique, et sans doute, là, précisément, sur des données numériques. Les données numériques, on pense au téléphone, on pense à la voiture, permettaient de localiser particulièrement des points qui ensuite faisait l'objet de fouilles orientées.
Une autopsie est en cours pour identifier formellement le corps de cet enfant et essayer de déterminer les causes de la mort. Ça met combien de temps à être fait une autopsie comme ça ?
Autopsie, elle peut être faite, peut-être elle a été faite dans la nuit, suivant les... D'abord, il faut transporter le corps à un endroit, sans doute pas dans le département, mais peut-être dans des pôles un peu plus importants comme à Toulouse. Donc, l'autopsie est faite. Prélèvement ADN, mais même sans doute, compte tenu du peu de temps entre la disparition et la découverte, sans doute même visuellement, on peut avoir une certitude sur l'identification. La recherche des causes de la mort, la recherche des liens entre cette victime et le suspect qui est incarcéré, ça veut dire les prélèvements qu'on peut faire sur le corps, sous les ongles par exemple, qui permettraient d'avoir l'ADN du suspect, ce qui conforterait l'idée que c'est bien lui. Et deuxième point, pardonnez-moi, qu'on doit aussi, quand on est enquêteur, ne pas exclure, c'est une autre personne, un complice.
La question évidemment de tout cela, qui le corps parlera en quelque sorte, Christian Flesch, le suspect n'a rien dit. Depuis le début, il garde le silence.
Oui, mais ça c'est courant, c'est un droit qu'il a, qui a sans doute été rappelé par son avocat. Et c'est le principe français, c'est à l'accusation, en l'occurrence le parquet, puis maintenant un juge qui va examiner les charges qu'il y a contre lui, et il s'expliquera ou il ne s'expliquera pas, et il sera jugé sur la base des éléments qui ont été retrouvés.
Sommes-nous face à un scandale d'État, un scandale du dysfonctionnement? Le mot a été lâché par le ministre de la Justice, qui dit qu'il y aura des responsables, qui laisse entendre qu'il y aura des sanctions. Une défaillance majeure en chaîne, après des plaintes, les unes les autres, l'une contre une fillette de 7 ans, à qui on a dit, bah non, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés, la plainte a été classée sans suite, puis une plainte d'une fillette de 11 ans qui se plaignait de plusieurs viols. Elle a été examinée par les médecins qui ont constaté des lésions qui corroboraient son récit. Et puis, rien. Le suspect n'a pas été inquiété, n'a pas été entendu. Et puis, Liana, sommes-nous face à un scandale ?
Alors, bien sûr, il y a des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, ils font l'objet d'une enquête qui a été diligentée. C'est bien par à la fois le garde des Sceaux et par le ministre de l'Intérieur, qui a pour emploi la gendarmerie, parce que dans l'ensemble du fonctionnement de la chaîne judiciaire, j'y inclus aussi les services d'enquête, il y a ce qui ressort du structurel, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la structure n'a pas fonctionné, de la faute personnelle éventuelle. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, parce que bien évidemment, quand en août 2025, les enquêteurs, le parquet de Toulouse, se retrouvent face à une plainte et que très vite, par l'accès à des fichiers, on peut s'apercevoir que la personne mise en cause est déjà connue pour avoir fait l'objet de plaintes classées sans suite ou de signalement. Bien sûr que là, ça doit mettre des feux
clignotants.
Et bien sûr, le traitement doit être accéléré.
Et ça n'a donc pas été le cas. Vous êtes nombreux à réagir. Nicolas, qui nous appelle de Leuville-sur-Orge, dans l'Essonne. La France entière est en état de très grande tristesse et d'émotion, mais aussi de stupéfaction. Nicolas, vous êtes chauffeur-livreur. Comment vous réagissez ce matin ?
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe. Moi, je réagis que j'appelle pas ça un dysfonctionnement. J'appelle ça de la complicité. Vous vous rendez compte qu'on est en train d'expliquer à cette pauvre famille qu'ont perdu leur fille. J'ai une fille du même âge. Qu'il y a eu un dysfonctionnement, mais c'est une honte de la part de la justice, de nos gouvernants. On parle d'une enfant, et c'est toujours pareil. C'est des pédocriminels qui ont le même profil, et on ne fait jamais rien. Et là, on explique aux familles un dysfonctionnement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une complicité. Ils sont complices.
Pour vous, il y a une forme de responsabilité.
Mais ils doivent être jugés au même titre que ce monsieur, je serais pas vulgaire, je suis à l'antenne, qu'au même titre que ce monsieur-là, ils doivent avoir la même sanction pénale.
Alors,
ils sont autant responsables que lui.
Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça provoque beaucoup, beaucoup de colère. On l'entend hein, depuis le début de la semaine. Vous êtes nombreux au fur et à mesure des jours où l'on découvrait l'ampleur, le nombre de plaintes, de signalements qui étaient restés lettres mortes. C'est effectivement la question de l'État a-t-il protégé ou n'a-t-il pas protégé ses enfants ? Est-ce que c'est un manque de moyens, Christian Flesch ? Est-ce que c'est une sorte de France de l'à-peu-près que l'on a sous les yeux ?
Alors, c'est clairement ce que l'inspection devra déterminer. Est-ce que c'est un manque de moyens ? Bien sûr, il y a des problèmes de moyens. Bien sûr qu'il peut toujours y avoir des moyens, mais déjà, faisons fonctionner ce qui existe. Il y a donc une plainte qui a été prise, en considération, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a eu des examens médicaux qui ont été faits, des examens psychologiques qui ont été faits, qui ont conforté l'idée que,
Cette petite fille avait bien été violée
en 2025 par une personne qui faisait l'objet, par l'accès au fichier, c'est très facile, qui faisait l'objet
d'une
déjà
précédente plainte deux ans plus tôt.
Même classée sans suite. Vous savez, on a l'habitude de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Au bout de combien de plaintes il va falloir commencer? Donc derrière, il y a un traitement accéléré, ça veut dire transmission du dossier. Il semble que le dossier était sous forme papier, transmis par courrier.
La maman de la petite Rosa, celle qui a porté plainte en août dernier, elle a ces mots, elle dit, si la plainte de ma fille avait été prise au sérieux, sans doute Liana n'aurait jamais disparu. Et évidemment qu'on se dit tous cela.
Bien sûr.
On en est là aujourd'hui. La réunion politique à Matignon ce matin, est-ce qu'elle calmera la colère, le sentiment que la justice n'a pas été faite ou que la protection que l'on doit à nos enfants n'a pas été à la hauteur? Merci Christian Flech en tout cas d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Je vous rappelle qu'à 8h30, un face-à-face exceptionnel avec deux invités, le maire de Florence. Florence où était scolarisée Liana, qui s'exprimera et qui dira ce matin l'émotion de tous les habitants. Et puis la magistrate Béatrice Brugière, précisément sur cette question des dysfonctionnements. Et je suis d'accord avec vous, le mot dysfonctionnement paraît tristement faible. Sommes-nous face à un scandale? C'est évidemment la question que je lui poserai. Et surtout, comment faire pour que ça ne se renouvelle pas? Il est 7h19 sur RMC. Dans un instant, on va remonter le temps. Et ce matin, c'est avec vous, Paola Puirari. Bonjour Paola.
Bonjour Pauline.
Les congés payés, c'est leur anniversaire en 90 ans.
Oui, juin 1936, le Front populaire offre deux semaines de congés payés aux Français qui vont découvrir justement la mer et choquer la bourgeoisie.
Vous nous le racontez dans un instant. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes, il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21, RMC et RMC Story, 7h21, mais attention, on va remonter le temps 90 ans en arrière. Comme chaque matin, l'histoire éclaire notre actualité. Et ce matin, c'est avec vous, Paola Puirari. Bonjour Paola.
Bonjour Apolline.
On nous parlait et on vous parlait hier sur RMC de cette proposition de loi qui permettrait d'échanger la cinquième semaine de congés payés contre de l'argent. Les congés payés, ils fêtent leur 90e anniversaire ce mois-ci.
Et ce matin, Apolline, je vous emmène en juin 1936. La France est en ébullition. Le Front populaire vient de remporter les élections et dès le lendemain, il va se passer quelque chose d'inédit. Les ouvriers ne veulent plus rentrer dans les usines. Ils les occupent sous les yeux médusés des patrons. Ils en ont marre des cadences chronométrées du sifflet du contremaître. À l'époque, rendez-vous compte, ils travaillent quand même 6 jours sur 7 sans aucune vacance. Alors ils seront bientôt 2 millions dans la rue.
Les patrons vont finir par céder?
Oui, ils abdiquent. Le 7 juin, il y a 90 ans exactement ce dimanche, les accords de Matignon sont signés. Deux semaines de congés payés pour tous les salariés, des vacances pour tous, pour la première fois de l'histoire de France. Alors forcément, dans le pays, comme dirait Charles Trenet, il y a de la joie.
Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Et concrètement, alors ils partent où?
Alors je vais vous décevoir, Apolline, pas très très loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils enfourchent un vélo, plantent une tente sur un carré de terre battue. Le camping d'avant-guerre, ça se vit à la dure, près d'une rivière sauvage, mais c'est la liberté. Léo Lagrange, ministre des Loisirs. Oui, à l'époque, il y a un ministre des Loisirs crée plus tard un billet de train à 60% de réduction. 500 000 billets vont être vendus. Les Parisiens vont débarquer sur les côtes, découvrir la Normandie, la Bretagne pour prendre une bouffée d'air marin. Certains n'ont jamais vu la mer.
On imagine la tête effectivement de la bourgeoisie qui régnait seule sur ces plages de Normandie jusqu'alors.
Une tête épouvantable. Elle voit débarquer ce qu'une presse conservatrice surnomme avec tout le mépris du monde les prolos, les salopards en casquette. Et le choc est aussi vestimentaire. Les ouvriers arrivent avec des maillots de bain qui font pouffer de rire les aristos bronzés, des caleçons qui remontent jusqu'au nombril, des maillots de bain, une pièce très couvrant. Certains ne savent pas quoi faire de ce temps libre, alors ils s'assoient sur la plage et ils comprennent eh bien, qu'on peut aussi ne rien faire.
Les vacances viennent donc d'être inventées.
Et avec elles, la société des loisirs, les boules sur la place du village, la sieste sous le tilleul comme droit revendiqué, un droit presque révolutionnaire. Les sociologues résument ça en 3D. Délassement, divertissement, développement personnel, avouez qu'il y a pire comme programme. Et cette même année 1936, un chimiste met au point une huile pour bronzer sans brûler, l'ambre solaire, née exactement la même année que les congés payés, quitte à lézarder, autant ne pas revenir écarlate. Alors on va se quitter sur une image de cet été 36, et pour ça, rien de mieux que Jean Gabin.
Merci Paola Puirari pour cette remontée du temps, une chronique à retrouver en podcast ou sur le site et l'application RMC. Il est 7h24 et c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint.
RMC,
De Manches Pirates, le face-à-face.
Et bonjour.
Bonjour. Bonjour Arnaud. Le face-à-face tout à l'heure, je recevrai non seulement le maire de Florence, mais aussi la magistrate Béatrice Brugère, qui va revenir bien sûr sur la disparition et l'affaire Liana.
Ouais, Paola, elle a eu les vacances comme sujet, c'était quand même plus sympa.
Ouais, c'est sûr.
Alors comme hier, on avait bien rigolé avec la chronique sur Dominique Rizet qui venait nous parler de l'affaire Liana, on s'est dit que c'était dommage de ne pas faire l'épisode 2.
Oui.
En fait, c'est comme les tuches. C'est pas parce que le premier épisode n'est pas drôle qu'on ne peut pas faire le suivant. Vous voulez pas que je vous parle d'un sujet un peu plus léger, comme la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, la guerre à Gaza, qu'on se détende un peu, qu'on se relaxe. Alors, Béatrice Brugère est secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Ça m'a surpris. Parce que autant des ouvriers dans la métallurgie, la SNCF, les usines, on visualise, chez les magistrats, beaucoup moins.
Beaucoup moins, ouais.
Après, ils ont un petit marteau, les juges, donc quasiment dans le BTP. Elle sera donc là pour nous éclairer sur l'affaire Liana. Il y a un suspect. Et je pense qu'on a tous eu la même réaction en apprenant son identité sur les bandeaux des chaînes infos. C'était marqué « Le suspect J. Barella a déjà été mis en cause ». On a tous cru une demi-seconde que c'était Barella. Le choc. En plus, s'il avait eu besoin d'un alibi, il pouvait pas dire « j'étais au Parlement européen » parce que personne ne l'aurait cru, ça marche pas. Le gouvernement a annoncé « on va faire une enquête administrative sur les dysfonctionnements de la justice ». Déjà qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs. Mmh. Là, ils vont demander à des enquêteurs déjà en sous-effectif d'enquêter sur le manque d'effectifs des enquêteurs qui restent parce que eux enquêtent sur le fait que, comme ils sont occupés ailleurs, il y a moins d'enquêteurs.
Mille fois.
Voilà.
Une
Donc
personne.
Je sens venir le moment où le cornu va nous annoncer un Grenelle du Beauvau, du Ségur de la justice, avec son supplément numéro vert, et ils vont mettre des mois pour accoucher d'un rapport du genre « L'affaire Liana a mis en lumière des dysfonctionnements qui ne doivent plus se reproduire. » Oh bah merci du renseignement, heureusement que t'es là. Et puis après, le Premier ministre laissera un post-it pour le prochain locataire de Matignon. « PS, la justice fonctionne pas, parce que la justice ne fonctionne pas dans ce pays. » Est-ce qu'on a essayé de débrancher et de rebrancher le garde des Sceaux? Est-ce que quelqu'un a essayé de mettre la justice dans du riz? C'est ça qu'il faut faire. Alors vous savez, moi je suis engagé sur cette cause. Des victimes, j'en connais. On se bat tous les jours avec elles. Hier, il y en a une qui m'a carrément dit « La justice, c'est comme le Père Noël. T'y crois jusqu'à ce que t'y crois plus. » Alors, si le gouvernement veut éviter de nouveaux dysfonctionnements, il peut m'appeler. Des dossiers mal gérés, j'en connais plein. J'en ai un du côté de Rennes qui est gratiné. On a bien rigolé, on a bien amusé. C'est bien ces petits rendez-vous pour se détendre. Allez, rendez-vous avec Béatrice Brugère à 8h30.
Et d'ici là, toutes les dernières informations. C'était Arnaud de Manche, on le retrouve à 8h15. 7h26, c'est l'heure de jouer. Parce qu'aujourd'hui et tout le week-end sur RMC, vous remportez un album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 et 350 autocollants. C'est Manu le chiffre qui serait content.
Moi aussi.
Je vais lui dire de jouer.
Moi aussi.
Allez, vous pouvez gagner cet album toutes les 30 minutes. Il y a un gagnant qui sera tiré au sort. Vous envoyez dès maintenant Panini au 7-32-16. Panini au 7-32-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Restez bien avec nous. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Apolline, bonjour à toutes et à tous. Après une semaine de recherche pour retrouver Liana, 11 ans, un corps paraissant être celui de l'enfant découvert hier dans une exploitation agricole. Nantes, une nouvelle fois le théâtre d'une fusillade. Une personne a été tuée dans ses tirs imputés au narcotrafic. À Roland-Garros, place aux demi-finales hommes. Aujourd'hui, on viendra aussi sur la belle histoire de la Polonaise Maja Ralinska. Inconnue avant le début du tournoi, elle disputera demain sa première finale.
Le corps retrouvé hier dans le Gers est en cours d'identification.
Oui, s'il n'est pas encore certain qu'il s'agit de celui de Liana disparue depuis une semaine, de nombreux éléments laissent à penser que cela pourrait être le cas. Dans l'établissement où était scolarisée la fillette de 11 ans, les parents d'élèves n'ont aucun doute, ce corps est celui de Liana, Pierre Bourgès.
Comment vont-ils annoncer la nouvelle à leurs enfants? Voilà la question que se posent les parents au pied des marches du collège de Florence, alors même que certains d'entre eux peinent à retenir leurs larmes.
Oh, c'est triste, oui, surtout 11 ans quand même, avec des enfants comme ça.
C'est choquant et angoissant. On est choqués pour elle, pour cette petite, et on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à ses parents, ses proches, c'est tout de suite.
En sortant par la petite porte blanche de l'établissement, certains élèves ont déjà été informés de la découverte d'un corps qui pourrait être celui de Liana. Quelques-uns sont tête baissée, d'autres viennent chercher du réconfort dans les bras des surveillants. À côté de son enfant, cette maman a elle aussi mis du temps à réaliser.
Ça fait bizarre, on s'était tous dit, allez, on va la retrouver.
Désormais, elle veut savoir ce que son possible agresseur lui a fait.
Je me mets à la place de la maman. Je suis maman moi aussi et moi je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait, surtout qu'est-ce qu'il n'a pas fait.
Ce matin, les élèves pourront aller en cours, mais il ne s'agira pas d'une journée normale, explique la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Le principal suspect dans cette affaire, c'est Jérôme Barella, père de famille de 41 ans, mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention. La mère d'une amie de Liana rapporte un témoignage surprenant recueilli par BFM TV. Le suspect a toqué à sa porte le soir de la disparition de la fillette. Écoutez.
Le jour de la disparition de Liana, le téléphone de mon conjoint sonne, on était juste à se mettre à table. Il me dit c'est Jérôme, je le rappellerai après. Et en fait, bon, il a insisté 2-3 fois je crois. Donc on finit de manger tranquille, on débarrasse tout, on se met ça. Et là, on entend toquer à la porte. Et là, il ouvre la fenêtre de la cuisine et il voit Jérôme. Et c'est là qu'il nous a dit, il y a une petite fille qui a disparu, Liana, est-ce que vous l'avez vue? Non, du tout. Du tout, ça ne nous dit rien du tout. Et de là, en fait, il est reparti après, il a dit ben, « je vais aller faire le tour pour voir si on la trouve par là ». Et voilà. Et après, depuis, plus de nouvelles, silence radio.
Jérôme Barella, déjà visé par plusieurs signalements et plaintes, notamment pour viol, n'a jamais été réellement inquiété par la justice, ce qui pose la question de la responsabilité de l'État dans cette affaire. Hier, le ministre de la Justice admettait que des défaillances avaient eu lieu. Gérald Darmanin qui se rendra à Matignon avec le ministre de l'Intérieur pour faire le point sur la situation dans cette affaire avec Sébastien Lecornu à Matignon. La réunion est prévue à 10h30. L'affaire Liana, on continuera d'en parler sur RMC à 8h30 dans le face à face avec Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Je vous le disais en titre, nouvelle fusillade à Nantes. Hier, un homme de 18 ans a perdu la vie. C'est la quatrième victime en moins d'un mois due au narcotrafic, selon le procureur de Nantes. Le journal Ouest France rapporte qu'un suspect d'une vingtaine d'années a été interpellé. Dans ce quartier du nord-est de Nantes, les habitants éprouvent une grande fatigue et une grande peur, Martin Lange.
Après la fusillade, Areski a vu les deux individus cagoulés prendre la fuite à moto. Une scène qui n'a plus rien d'exceptionnel pour lui.
J'ai l'habitude de voir ça.
Il voit des dealers au pied de son immeuble presque tous les jours.
Je rentre des fois à 2h du matin. Sincèrement, j'ai toujours la boule au ventre. Et surtout quand j'arrive ici, des fois je les trouve dans la cage d'escalier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me sort de la cave. Franchement, j'ai peur.
Une situation insoutenable au point qu'il envisage de quitter le quartier. Nina, une voisine, n'a pas dormi chez elle après la fusillade.
Non, je ne me sens pas en sécurité.
Elle habite ici depuis 3 ans.
Ils tirent en pleine journée, en plus, c'est ça qui fait peur. Avant, ben, c'était la nuit au moins. C'est pas mieux non plus, remarque. Mais maintenant, en plein jour, ça veut dire qu'ils ont peur de personne.
Face à l'inquiétude des habitants, l'adjoint à la sécurité à la mairie de Nantes, Denis Taledec, a demandé des renforts de police dans le quartier de la Beautière. Mais selon lui, pour faire face au narcotrafic, il faut davantage de moyens.
Nantes est comme les autres villes touchées par ces phénomènes. Il faut mettre les moyens nécessaires à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne.
L'élu réclame notamment la création d'un service de renseignement dédié à la lutte contre le narcotrafic.
Philippine Boulet pour RMC. Jugement attendu au procès de Félix Binghi. Le tribunal correctionnel de Marseille rend son jugement aujourd'hui contre le narcotrafiquant chef présumé du clan Yoda qui opérait là sur les principaux points de deal marseillais. Il est jugé avec 19 autres personnes. Félix Binghi encourt jusqu'à 20 ans de prison. Direction Roland-Garros à présent avec cette belle histoire comme on les aime, celle de la Polonaise Maja Ralinska, issue des qualifications et quasiment inconnue au début du tournoi. Elle sera en finale demain face à Mira Andreeva à 24 ans. La Polonaise réalise un concours historique et vit un véritable conte de fées à Roland-Garros, Julien Taxis.
Oui, et le public du cours central l'a poussé jusqu'au bout de sa demi-finale. La folle épopée se poursuit pour la Polonaise qui a remporté son 9e match à Roland-Garros.
Après la balle de match, j'avais du mal à comprendre ce qu'il se passait. J'étais presque en état de choc. Je me sens comme dans une bulle. C'est difficile à expliquer, je suis juste super heureuse.
114e joueuse mondiale avant le tournoi, Maja Ralinska n'avait jusque-là gagné qu'un seul match en Grand Chelem. Son entraîneur Jaroslav Marowski a du mal à réaliser.
C'est un rêve, on a du mal à y croire. Après toutes les blessures et les problèmes qu'elle a connus, ce qu'elle accomplit est phénoménal. Pour la finale, qu'elle en profite, tout est possible.
Un parcours hors du commun et un jeu flamboyant pour Sarah Pitkowski. Consultante de tennis RMC, le public samedi sera derrière la Polonaise.
Un, son jeu émerveille parce qu'elle est capable de faire plein de choses avec la balle. Et puis je crois que
En France particulièrement, on adore les belles histoires.
Si elle s'impose en finale, Ralinska deviendra la deuxième joueuse à remporter un grand chelem en sortant des qualifications après la Britannique Emma Raducanu.
Du côté des hommes, cette fois à 14h30, se joue aujourd'hui la demi-finale entre l'Allemand Alexander Zverev. Il joue face au Tchèque Jakub Mencik.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes aujourd'hui.
Oui, début de la course à 20h15. Voici le pronostic de RMC. Le favori est le 4, Idol Jaillerie. L'outsider est le 6, Evan Star. Le 4, le 6.
C'était le journal de Grégoire Morelli. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans la demi-heure qui vient, ne manquez pas à 8h50 le débat du vendredi. Qui est responsable des débordements après la victoire du PSG dans la nuit de samedi à dimanche? À qui la faute? Charles Consigny et Cécile Duflot en débattront à 8h50. Mais dans un instant, cette question en Ile-de-France. Un véhicule sur 5 transporte désormais des colis. C'est plus de 300 millions de colis qui ont été livrés l'an dernier. Bonjour Yannick Buissin. Vous représentez les transporteurs et ça entraîne des bouchons et ça entraîne de la pollution. Quelles conséquences de l'explosion du nombre de colis en France? Je vous pose la question dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est 315 millions de colis qui ont été distribués l'an dernier, rien qu'en région parisienne, et c'est un record. Bonjour Yannick Buissin. Vous êtes le vice-président de l'Union des entreprises et transports et logistiques en France. Aujourd'hui en Ile-de-France, un véhicule sur cinq qui circule transporte au moins un colis. C'est une bonne nouvelle ou c'est un risque de saturation pour vous?
C'est une tendance de l'économie et du mode de consommation des consommateurs que les entreprises de transport et logistique accompagnent. Donc c'est une transformation des modes de consommation et les entreprises investissent, s'organisent, modifient leur schéma de distribution pour répondre à cette demande.
C'est un changement évidemment de consommation. C'est un changement aussi pour vous, les transporteurs, pour les livreurs. On va tout de suite d'ailleurs accueillir Mathias qui nous appelle de Lyon. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Vous vous faites beaucoup livrer, vous?
Beaucoup.
Pour tout? Pourquoi?
Pour tout. Un exemple, je suis en formation. Là, j'habite à Lyon en ce moment, je suis en télétravail.
Ok.
Je suis en formation à Nanto. Non, non. En ce moment, je ne suis pas à Nanto, je suis à Lyon, physiquement.
Ok.
Il me manquait un shampoing, je l'ai commandé, je l'ai reçu le lendemain. Dans ce village, il n'y a rien. Il n'y a qu'une boulangerie qui fait bar en même temps. Moi, ça me va bien. Quand je vais dans un magasin, si je dois acheter un shampoing, j'achète d'autres articles. Donc, c'est pas la peine. La livraison ne me coûte rien parce que j'ai un abonnement spécifique. Je commande tout, sauf les fringues et le frais.
Voilà. Et sinon, le reste, tout, tout, tout. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que vous dites aussi sur le côté, du coup, j'ai pas de tentation. C'est-à-dire que je ne prends que ce dont j'ai besoin et je ne vais pas traîner dans les rayons à rajouter des trucs inutiles.
Non. Et puis, il y a un autre sujet, je pense que ça, il faudrait l'aborder un jour, c'est l'accueil que vous avez dans les magasins maintenant. Et je crois que c'est spécifique à la génération Z. J'ai 60 ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé comme opticien en boutique, et je vois bien qu'il y a une différence d'accueil. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un autre sujet.
Ça veut dire qu'aujourd'hui vous vous sentez en réalité, enfin c'est le même sujet, c'est-à-dire que la raison aussi pour laquelle vous n'allez pas l'acheter en magasin, c'est qu'au fond vous trouvez ça presque désagréable désormais l'expérience client dans un magasin.
Oui vraiment. Voilà. Et oui vraiment. Mais je pense que mais vraiment ça c'est un autre sujet qu'il faudrait peut-être l'aborder un jour.
C'est effectivement la question de l'accueil. Si vous-même vous avez travaillé en restauration étant plus jeune, effectivement cette question de l'accueil qui à vos yeux a changé. Je voudrais qu'Yannick Buissin puisse réagir à un point de ce que vous disiez tout de suite Mathias, c'est la question aussi de la ruralité, c'est-à-dire que là on a parlé du record en Ile-de-France. En Ile-de-France honnêtement il n'y a pas la question ou l'excuse de dire qu'il n'y a pas de magasin dans le coin, mais en ruralité, comme le disait à l'instant Mathias, il y a parfois des endroits où il faut faire plusieurs kilomètres et avec le prix de l'essence actuel pour aller acheter ne serait-ce qu'un shampoing. Est-ce que effectivement ce sont ces colis-là aussi qui ont transformé, y compris votre mode de travail, à vous les transporteurs, Yannick Buissin?
Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des solutions multiples qui sont mises en œuvre. La tendance de commande de e-commerce concerne l'ensemble du territoire et on voit qu'aujourd'hui on parle d'omnicanalité, c'est-à-dire que
ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire que le consommateur va vouloir, quand il passe devant un magasin, acheter quelque chose, commander, se faire livrer à la maison où il est en vacances et retrouver ses produits de l'ensemble de ses manières ou en drive. Et donc, bien sûr, tout ça influe les flux logistiques.
On parle souvent des grosses entreprises. Voilà, alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites nouvelles solutions ? C'est quoi les nouvelles solutions ?
Bah, en tout cas, vous avez vu qu'il y a beaucoup de points relais qui sont aussi un moyen d'optimiser ces livraisons, puisque vous avez à avoir 10, 20, 50, 100 colis qui vont arriver sur une boutique et puis le consommateur va venir le chercher. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de consignes, de retraits, qui sont aussi un moyen d'optimiser finalement ces derniers mètres, puisque vous allez aller remplir des casiers et le consommateur va passer devant cette consigne de retrait. Donc c'est des nouvelles solutions qui accompagnent la mutation de la consommation.
Un vrai changement de consommation, on l'a entendu dans la voix de Mathias et on l'entend avec vos chiffres. Yannick Buissin, merci d'avoir été en direct avec nous. Vice-président de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Je vous rappelle ce chiffre, 315 millions de colis distribués l'an dernier. Rien qu'en Île-de-France, c'est donc un record. Il est 7h46, c'est vendredi, c'est l'heure du débat. Cécile Duflo d'un côté, bonjour. Charles Consigny de l'autre. Je vous laisse évidemment imaginer qu'il y en a un de droite et une de gauche. Une majorité des Français estiment que le gouvernement est responsable des débordements après la victoire du PSG le week-end dernier dans la nuit et dans les rues de Paris. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro qui a été dévoilé hier. Pour vous, à qui la faute ? Qui est responsable ? Vous en débattez ce matin dans un instant. Cécile Duflo et Charles Consigny et vous au 32-16, 7h46.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat du vendredi, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec la saison des festivals parisiens qui est lancée.
Avant Solidays ou Rock en scène plus tard, c'est le festival Wheel of Green qui démarre aujourd'hui au Bois de Vincennes avec, vous les avez reconnus, Gorillaz. Gorillaz pour la première des deux soldates françaises de leur tournée mondiale. Demain, la tête d'affiche, ce sera la Boss Lady, Théodora. Festival Wheel of Green qui fête ses 15 ans, mélange entre musique et engagement pour l'environnement. Alors je sais pas si on va parler du climat, mais on risque fort de parler de météo. Sur les réseaux, on voit des gens se préparer, acheter des bottes, de la pluie prévue, des averses aujourd'hui, demain c'est mieux, dimanche. C'est un running gag chaque année, la pluie à Wheel of Green. Côté programmation, ajoutons Charlotte Cardin ce week-end. Sébastien Tellier, Diziz, Oclou seront de la partie. J'ai regardé, il reste des places, 200€, le pass 3 jours. Vous y verrez même Feu Chatterton. Allez,
RMC, Apolline Matin, le débat.
Il est 7h48, c'est vendredi, c'est le jour du débat droite-gauche. On va revenir sur les violences du week-end dernier après la victoire du PSG. Qui étaient les jeunes ? Qui sont les 890 personnes qui ont été interpellées ? Et qui est responsable ? Selon un sondage publié hier par le Figaro, 56% des Français jugent que c'est le gouvernement qui est responsable de ces débordements. Cécile Duflo, voix de gauche. Charles Consigny, voix de droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Français ? Est-ce que c'est un problème de consigne ? Est-ce que c'est un problème de maintien de l'ordre ? Est-ce que c'est un problème de gestion de tout cela, Cécile Duflo ?
Oui, alors je crois qu'effectivement les Français ont raison, c'est la responsabilité du gouvernement parce que la police et le maintien de l'ordre c'est une compétence nationale, mais je pense que peut-être on devrait s'interroger justement sur la manière d'organiser l'accueil de la fête dans ce genre de situation. Il y a plein d'expériences internationales et il y a aussi une histoire de la France qui montre que là, franchement, on a battu tous les records, 22 000 policiers mobilisés et ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'on traite la foule festive comme une foule hostile, alors même qu'il peut y avoir dans cette foule quelques individus sur lesquels il faudrait se concentrer. Le problème, c'est que si on met toute la foule en situation de confrontation, on aboutit au désordre qu'on a connu.
Charles ?
Le gouvernement, non. Moi, je pense honnêtement que la cause de ces émeutes, puisque c'était quasiment des émeutes, c'est 30 ans d'immigration sans contrôle, 30 ans de laxisme, 30 ans de non-gestion du dossier des quartiers difficiles, et c'est ça qui aboutit à ce qu'on ait aujourd'hui une jeunesse en rupture de banc. Alors, je vois Cécile qui pousse une mine effarée.
Oui,
moi, c'est des dossiers que je connais bien, que j'ai traité comme avocat, où j'ai défendu très souvent des jeunes qui avaient ce profil. On peut l'appeler comme on veut, c'était des Kaira pour parler comme on parle aujourd'hui. Je suis désolé, très souvent, il y a un sujet sur les origines étrangères qui font que vous arrivez parfois avec c'est-à-dire que très souvent, ce sont des jeunes qui sont issus de l'immigration, avec le père qui est absent, la mère qui est toute seule, qui est débordée. Ça, je l'ai vu dans plein de cas, le père qui est absent. Pourquoi ? Parce qu'il est retourné au pays. Je ne vous dis pas que c'est la majorité des jeunes qui étaient là, mais moi, je l'ai vu très souvent dans les cas
de délinquance et de criminalité. C'est plus une question d'autorité que d'immigration, Charles ?
Oui, c'est un phénomène global, si vous voulez. Deuxièmement, il y a le phénomène géographique, qui est que ces gens habitent tous au même endroit. Alors ça, on peut dire que la responsabilité est collective, etc. Mais c'est une réalité. Quand vous grandissez dans ces cités, vous grandissez dans un environnement qui ne vous pousse pas vers autre chose que ce genre de truc. Et troisièmement, je suis désolé, moi je pense qu'il y a un laxisme. Je pense qu'il faut inverser maintenant la logique pénale, parce que je comprends que les Français soient effarés par ce type de scène. Je pense qu'ils n'en peuvent plus de ce déferlement de violence. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut une sévérité judiciaire particulière.
Cécile Duflot.
En fait, je pense que je suis un peu peinée par ce que dit Charles. D'abord parce que c'est évidemment fondamentalement nourri de racisme, et ça, c'est triste, parce que pour beaucoup de ces jeunes dont vous parlez, qui sont stigmatisés comme issus de l'immigration, certains, leurs parents sont nés en France. D'ailleurs, une partie d'entre eux, pardon, mais ils jouaient au PSG. C'est exactement la même histoire. D'abord, l'autre chose, c'est que c'est pas du tout comme ça qu'on doit prendre le problème. Parce que sinon, en fait, on considère, et d'ailleurs on le fait sur d'autres sujets, qu'il y aurait une espèce de problème avec toute une jeunesse. Et à chaque fois qu'on a fait ça, et c'était en mai 68, et les jeunes, ils n'étaient pas issus de l'immigration, on a abouti à des erreurs de maintien de l'ordre. Pourquoi ? Parce que moi, je crois que la paix civile, c'est important. Et qu'on doit pouvoir célébrer et être très heureux de la victoire. Moi, j'étais sur les Champs-Élysées le soir de la demi-finale de 1998. Il n'y avait pas un policier à l'horizon. Parce qu'on s'attendait pas, je pense, à l'époque, à une manifestation populaire. Et franchement, j'ai vécu un truc qui m'a beaucoup marqué, cette espèce de holà du bas des champs jusqu'en haut des champs.
Là, c'est les policiers qui ont créé les troubles.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, dans un moment où tout le monde a envie de simplifier les discours, maintenir l'ordre d'une foule, d'ailleurs des fêtes, des célébrations collectives, ça existe aux Pays-Bas, ça existe en Allemagne, ça existe dans d'autres pays. Et franchement, si on croit, en plus je le dis aux gens qui ont justement pas envie que ces scènes arrivent, pas envie que des bâtiments soient dégradés, en fait, il faut être intelligent. Essayer de regarder les gens qui travaillent sur cette question.
Non, mais
je suis très sérieuse.
C'est une inversion de la réalité qui est dingue.
Non,
c'est marrant d'ailleurs.
Non,
parce que
c'est pas une inversion de la réalité, c'est du professionnalisme.
Non,
parlez-en d'ailleurs aux professionnels du sujet.
L'idéologie déguisée en sérieux, moi ça ne me
trompe
pas.
C'est la vôtre.
Moi ça ne me trompe pas.
C'est la vôtre.
Moi je suis très basique.
Dire qu'on est, en fait, expliquer que le problème c'est les Noirs et les Arabes, ça suffit en fait. Ça suffit, c'est un truc, pour le coup, c'est un truc de Parisien qui ne comprend rien au pays.
De morale à deux balles.
Bah, c'est exactement
je me lève pas si tôt que ça le vendredi matin pour me prendre des leçons de morale idiote. Excusez-moi. Moi, je vois ce que je vois sur les images. Je sais ce que j'ai vu. Encore une fois, comme avocat, je connais cette réalité de la racaillisation d'une partie de notre jeunesse. On peut prendre... Moi, j'ai envie justement qu'on s'attaque aux causes de ça. Alors, la gauche qui commence à nous expliquer que c'est parce qu'il y avait des CRS qu'il y a eu des violences, parce que c'est ça qu'on entend depuis une semaine
non,
dans la bouche...
Non, c'est comment on gère le maintien de l'ordre.
Certains,
je veux pas,
de la France
je
insoumise,
ne veux pas, Charles, et je ne veux
matin.
Pas... Je ne veux
c'est
pas qu'on ne puisse pas discuter
la
sérieusement.
Cause, ça pas ça.
Je ne veux
désolé.
Pas qu'on
la
ne puisse
cause,
pas discuter sérieusement des
jeunesse.
Questions de maintien de l'ordre. Sérieusement.
La cause,
ça veut dire avec
ça.
Des professionnels.
La cause, c'est une jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui est désœuvrée, qui est déscolarisée, qui est en rupture avec la société et qui verse effectivement dans la violence parce qu'elle n'a plus d'autre mode d'expression aujourd'hui. Alors, on peut s'interroger plus largement sur les causes. Moi, je vous dis que dans les causes, et je le maintiens, il y a effectivement l'immigration de masse qui fait que vous avez des gens qui arrivent et qui ne sont pas pris en charge, qui vivent dans la précarité. C'est vrai, ça se rejoint, toutes ces causes-là. Mais du coup, des jeunes qui sont dans la nature, vous avez le phénomène géographique, d'isolement géographique, vous avez le phénomène de la déscolarisation,
vous avez tous ces phénomènes qui s'ajoutent. Qu'ils se sentent rejetés.
Mais sans doute.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vais vous dire,
qu'ils sont rejetés ?
Mais d'abord, qui est du racisme et qui soit rejeté ? Bah, il suffit d'écouter Charles Consigny. En fait, il y a des gens qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France.
Ça, c'est de la diffamation.
Il y a des gens qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France, et qu'on ramène sans cesse, dans leur travail. Pardon, mais j'ai pris le RER avec eux ce matin.
Mais vous leur parlez pas.
Vous habitez où, Charles ?
Moi,
j'ai une chance dans ma vie qui s'appelle Villeneuve-Saint-Jean. Et cette chance de ma vie, ça m'a fait
fait justement que je partage une grande partie de mes journées. Je vais faire des courses avec les gens dont vous parlez avec morgue et mépris. Mais bien sûr.
Vous les connaissez pas, vous les aidez pas là. Vous les enfoncez dans leur truc.
Mais en fait, moi, justement, en fait, je ne parle pas pour eux. J'essaye justement de parler pour le coup. On parle de maintien de l'ordre, des professionnels du maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, vous faites dériver le débat. Si, la question, c'est comment on fait pour que quand il y a une victoire qui fait que des milliers de personnes ont envie de la célébrer, des milliers de personnes ont envie de la célébrer dans la rue, et d'ailleurs, y compris des élus. Moi, ça me fait rire que Carl Olive ait été obligé de faire une vidéo pour se désavouer. Bah oui, quand on est content et dans les moments de fête, il se passe
Carl Olive qui a été brûlé des bagnoles sur les champs.
Mais en fait, quand vous faites la fête,
c'est pas lui qui a tiré au mortier sur des
policiers.
Elle tire au mortier sur des policiers quand elle fait la fête.
Je peux finir. Ça vous embarrasse, en fait, de ne pas pouvoir parler sérieusement du sujet. Si, de dire comment on fait pour que la fête puisse s'exprimer dans un cadre où les gens qui ont envie de faire la fête ensemble, souvent d'ailleurs, on est en France en buvant de l'alcool, c'est ce qui se passe aussi quand il y a des grandes férias, on sait gérer la foule, mais on ne sait plus là avoir des débats sur cette question qui soient des débats sérieux, de comment on fait techniquement. Et je pense que techniquement, le fait d'avoir une grande présence de bleu marine, ça favorise aussi le fait que des gens comme des activistes qui ont envie de conflit viennent. Ça oui, c'est le cas.
Ah oui, là il y avait des black blocs ce week-end.
Bah oui, ils sont même venus dire bonjour à Pauline.
Exactement.
Il y a eu le fameux Hugues, mais sinon on les a vus les images.
Il y en a certains, pour le coup, j'en connais certains qui adorent ça. J'étais à Vichy,
vous laisse débattre tous les deux. La droite,
tout, ça fait 30 ans
la voix de droite et la voix de gauche. Et la voix de gauche, un débat effectivement.
Jamais fini à l'intérieur.
Aigu ce matin, vous les avez entendus, Cécile Duflo et Charles Consigny ce matin. Un vrai débat entre une voix de droite et une voix de gauche. Merci à tous les deux d'avoir débattu. Dans un instant, c'est le journal de 8 heures avec à la une ce corps d'une fillette retrouvée dans le Gers. Tout porte à croire qu'il s'agit bien du corps de la petite Liana. On y revient dès le début de ce journal. Et l'affaire, elle devient politique. Réunion ce matin à Matignon. Après les évidents dysfonctionnements, pour ne pas dire faillite, ce sera ensuite l'économie avec Emmanuel Le Chypre qui nous dira que le livret défense pour l'instant ne trouve pas son public. Il est 7h57. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.